Vous êtes bien sur Radio Campus, et c'est Travers sur le 106.6 jusqu'à 14h. Je vous propose maintenant la diffusion d'un entretien avec Alain Fleischer. Frôlant de peu le Goncourt en 2006 avec L'amant en culotte courte, Alain Fleischer, cinéaste, photographe, plasticien et directeur du Fresnois Studio National des Arts Contemporains, se consacre de plus en plus à l'écriture. Dans Moi chante dans F, un homme imagine, un homme se souvient. Alain Fleischer, en virtuose affirmé de l'écriture, n'en finit pas d'explorer toutes les formes possibles d'autobiographie en nous faisant vivre plusieurs vies, les siennes. On retrouve dans Moi chante dans F les habituels fils rouges de l'auteur, l'Europe centrale, la Shoah, les femmes, l'amour, le sexe, la musique, la photographie, la mort. Mais l'originalité de ce roman des origines et des racines est qu'il oscille encore plus dangereusement que les autres entre réalité et fiction. Chandor F. meurt à 27 ans en avril 1944 dans un wagon à bestiaux à destination d'Auschwitz. Chandor F., Alain F., Alain Fleischer donc, né en janvier 1944 à Paris, 3 mois avant la mort de son oncle. Sur cette trame, Alain Fleischer se livre à un exercice d'identification de haute voltige. Veut-il, en faisant revivre ainsi son oncle de Budapest, réparer une injustice, celle qui frappa tous les Juifs d'Europe au milieu du XXe siècle et leur rendre hommage tout en exorcisant ces non-dits familiaux? Mystère et secret, mémoire réelle ou rêvée? Et si une chevalière en or était la véritable héroïne du roman? On écoute Alain Fleischer. Alain Fleischer, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que c'est la chevalière de votre oncle Chandor qui vous a décidé à écrire ce livre?
En tout cas, c'est quand ma tante, pour l'anniversaire de mes 20 ans, m'a remis cette chevalière, qu'elle m'a appris, enfin je la connaissais un petit peu, mais en tout cas qu'elle m'a révélé toute l'histoire de cet oncle, qu'elle m'a en quelque sorte fait cadeau en même temps que la chevalière du destin tragique de cet oncle que je n'ai pas pu connaître, puisqu'il est mort à peine 3 mois après ma propre naissance. Et donc c'est vrai que dès cette époque-là, j'ai pensé que ce cadeau allait me suivre toute ma vie, bien que je n'ai jamais porté la chevalière. Je ne l'ai jamais portée en quelque sorte parce que elle devenait un bijou sur ma main. D'abord, je ne porte aucun bijou, aucun bracelet, aucune bague. Et puis parce qu'elle était liée à un destin tellement tragique que ça me semblait presque indécent de la montrer. Par contre, je savais que désormais l'histoire de cet oncle me hanterait et qu'il serait auprès de moi une sorte de spectre ou de double. Je dis un double d'autant que ma tante, en me parlant de lui, ne cessait de me dire à quel point elle voyait entre lui et moi des ressemblances. Elle voyait en moi une sorte de résurrection de ce frère qu'elle avait eu, qui était son frère favori. Elle en avait 3, c'était le plus jeune. Et comme elle-même n'avait pas eu d'enfant, elle me voyait comme ça reprendre les traits, la personnalité, certains aspects de ce frère qu'elle avait beaucoup aimé. Donc, dès cette époque-là, j'ai su que ce personnage fantomatique allait m'accompagner. Mais j'ai mis très longtemps à parler de lui. J'ai commencé à parler de lui par fragments. J'ai décrit dans un livre qui s'appelle Quelques obscurcissements cet anniversaire, cette fête d'anniversaire à Londres quand j'ai 20 ans et qu'elle me fait cadeau de cette bague. Mais quand j'ai écrit ce petit livre, je n'avais pas envie de raconter toute l'histoire de la bague. Je racontais le sujet principal de ce livre était finalement autre chose. Le sujet principal de ce livre, c'était d'expliquer comment j'avais été amené à écrire un petit texte, le premier texte que j'ai écrit, qui s'appelait La Fontaine Fontec, une sorte de nouvelle ou de conte ou de récit. Et donc je me contentais d'évoquer l'épisode du cadeau de la bague. Et puis après j'évoque aussi cette figure de cet oncle tout à fait à la fin du seul livre vraiment autobiographique que j'ai écrit, qui est L'amant en culotte courte, Alors là, pour le coup, j'apprends vraiment l'existence de cet ongle pour la première fois, le même été que celui de mon initiation à Londres, puisque après le mois de juillet passé dans la famille où j'apprenais l'anglais, où j'avais vécu cette expérience amoureuse et sexuelle avec cette jeune fille, le même été, mais au mois d'août, mon père m'emmenait pour la première fois à Budapest, un an après la révolution de 1956, et que, avec beaucoup de pudeur d'ailleurs, il nous emmenait, ma mère, ma sœur et moi, dans le quartier de sa famille, sans d'ailleurs vouloir nous montrer la maison de sa famille, devant laquelle on a dû passer sans qu'il nous la signale. Il nous a dit qu'il ne la retrouvait pas, ce qui à mon avis était faux, mais sans doute voulait-il échapper à l'émotion qu'auraient constitué les retours avec cette maison. Mais par contre, on a découvert la vieille synagogue totalement à l'abandon, fermée, et dans le jardin de cette synagogue livrée aux mauvaises herbes, une stèle où figuraient les noms de tous les déportés de ce faubourg de Budapest, parmi lesquels quelques fléchères, dont Sándor.
Est-ce que l'écriture, c'est une manière d'exorciser les non-dits familiaux ?
Je pense que ça peut l'être. Il y a sûrement beaucoup d'écrivains pour lesquels ça a été ça. Je ne pense pas que ce soit le cas pour moi, parce que si mon père ne nous parlait absolument jamais du destin de ses propres parents et de ses deux frères, et de beaucoup de ses amis et d'amis de sa famille, c'était pour une raison que je ne m'explique pas. C'était par pudeur, en se méfiant de tout côté du pathétique et du tragique, et parce qu'il n'aimait parler, lorsqu'il évoquait sa jeunesse, que des bons moments, des moments de bohème joyeuse, de lycéen bringueur, farceur, qui font la noce, qui se font accompagner par des musiciens de cigane, qui se saoulent dans les tavernes et dessoulent dans les bains turcs pour être présentables le lendemain matin. Et jamais il n'avait le goût ni l'envie, jamais il n'a évoqué les moments tragiques. Je pense que c'était un trait de son caractère, et c'est donc ma tante, sa sœur, la seule autre survivante de ma famille, qui un jour, sans non plus en faire, je dirais, des histoires, m'a informé, en quelque sorte, c'était pour qu'une fois pour toutes je sache ce qui s'était passé, ce qui était arrivé, pourquoi j'avais pas de grand-père, ni de grand-mère, ni d'oncle. Et que, voilà, pour l'anniversaire de mes 20 ans, elle m'a fait cette sorte de cadeau symbolique, donc le destin de mes grands-parents et de mes oncles, et cette bague. Alors, pour moi, écrire, ce n'est pas du tout exorciser, mais c'est faire revivre des gens qui n'ont pas vécu assez longtemps. C'est les sauver d'oubli, leur donner une existence qu'ils n'ont pas eue. Ce sont des destins obscurs que beaucoup d'autres ont connu, assez semblables aux siens. Cet oncle, lui, bon, il a eu cette particularité dans le tragique qu'il n'est pas allé jusqu'au camp de concentration, puisqu'il a eu la colonne vertébrale brisée à coups de crosse par un soldat allemand en montant dans le train, donc il est mort dans le trajet. Mais je ne pense pas exorciser quoi que ce soit, enfin pas un non-dit, je pense sauver de l'oubli dans la mesure du possible, et sans savoir ce que sera le destin de mes livres, qui eux-mêmes seront peut-être un jour totalement oubliés, mais en tout cas pendant quelque temps de donner une existence à ces personnages. Et comme j'ai la faiblesse de croire que tout ce qui est écrit reste, qu'un livre, une fois qu'il est publié, même s'il n'a aucun succès, même s'il n'est vendu qu'à 50 exemplaires, il existe pour toujours, parce que finalement, des bibliothèques l'acquièrent, qu'il y a le dépôt légal, que les universités se procurent les livres, et que donc, quelque part, ces livres sont sauvés, enfin, ce qui est écrit est sauvé. Donc, voilà, c'est surtout pour ça. Et ça a été vrai, d'ailleurs, pour les quelques textes à caractère autobiographique que j'ai écrits. C'était pour sauver ces choses-là. La manque, de course, c'était pareil. C'était un de mes plus beaux souvenirs, disons, d'enfance et de jeunesse, que j'ai mis très très longtemps à traiter sous forme d'un livre, parce que je craignais de ne pas savoir le faire, d'avoir peur d'abîmer ce souvenir, et d'être impudique en l'évoquant, et voilà, et de tout compromettre. Donc j'ai mis beaucoup de temps à me décider. C'est après avoir fait l'expérience de l'écriture des romans que je me suis senti capable d'évoquer un événement strictement autobiographique, quitte à lui donner cette forme romanesque qui en sauve la vérité, car étrangement ou paradoxalement, c'est la forme romanesque qui m'a permis d'être aussi près que possible de la vérité des sentiments, des sensations, des impressions, des situations. Donc voilà ce qu'est pour moi l'écriture, c'est cette capacité de sauvegarde de la mémoire.
Mais est-ce que faire revivre le jeune Chandor, c'est pas aussi réparer une injustice d'une mort trop précoce ?
Oui, bien sûr, j'ai beaucoup ce sentiment de l'injustice de ces destins fauchés, violemment, férocement. J'avoue éprouver même de la haine envers les responsables de tout ça. Je dis d'ailleurs dans le livre que peut-être cet homme aurait-il eu un destin tout à fait ordinaire. Il n'aurait peut-être pas été un grand artiste ni un héros de quoi que ce soit, mais en tout cas tué, massacré dans les circonstances que je décris à 27 ans, c'est une horreur, et je pense que j'aurais aimé le connaître et qu'en faisant un personnage de livre, je fais sa connaissance en quelque sorte. Le livre est une façon de faire sa connaissance et de le venger, oui, de le venger, de que ce soit une revanche sur son destin terrible et une façon bien insuffisante de punir les coupables.
Est-ce que l'adolescence, c'est un moment de la vie qui vous touche beaucoup ?
Oui, je crois avoir identifié dès le moment où je vivais mes années d'adolescence qu'elles étaient essentielles, avec le sentiment que je pouvais avoir à l'époque que jamais je ne serais plus intelligent que dans ces moments-là, que jamais je ne serais plus capable d'étudier, d'apprendre, de m'approprier des savoirs, des langues étrangères, de discuter, de philosopher, de... Voilà, j'ai eu très fort ce sentiment au lycée, du fait de ce qu'étaient les études au lycée à l'époque, avec de bons professeurs, des camarades intelligents, et un sentiment de jubilation, je dirais, intellectuelle, et en même temps, comment dire, d'attachement encore au monde de l'enfance, donc aux rêveries de l'enfance, à cet univers très protégé, très privilégié. Moi, j'avais le sentiment d'un très grand privilège d'être enfant et d'avoir encore des culottes courtes. Je n'avais aucune hâte de devenir grand, aucune. Et quand on me demandait « qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand ?», je répondais que ça ne m'intéressait pas de savoir ce que je ferais quand je serai grand, puisque j'étais trop content d'être un petit garçon. Par contre, c'est vrai que j'avais un désir fou de connaître l'aventure amoureuse et l'aventure sexuelle, et d'aborder les filles. Mais je voulais à la fois être un grand sur ce plan-là et un petit garçon pour le reste. Donc voilà, c'est vrai que l'adolescence a été un moment important. Je dois dire qu'elle l'est aussi très fortement dans toutes les cultures d'Europe centrale. On trouve beaucoup dans la littérature de hongroise, tchèque, autrichienne, polonaise, et dans les films, dans le cinéma aussi de ces pays-là, des personnages, alors peut-être pas vraiment d'adolescents, mais de jeunes étudiants. C'est une période qui, dans ces civilisations, dans ces cultures, est considérée comme décisive. Les plus belles années de la vie de quelqu'un, ce sont ces années d'étudiants, de collégiens. Et ça, je l'ai peut-être hérité de mon père, justement pour les raisons que je disais tout à l'heure, qu'il ne parlait que de ça. Quand on lui demandait, quand il parlait ou quand il parlait spontanément de son passé en Hongrie, de ce monde qui me semblait énigmatique, inabordable, mystérieux... j'adorais l'entendre raconter des histoires parce que c'est toujours des histoires très joyeuses. Enfin, et je rêvais à cette vie de bohème, insouciante, libre, en même temps très exaltante, très enivrante, parce que tous ces jeunes gens étaient quand même très épris de musique, d'art, de littérature, de poésie. Donc tout ça me semblait très beau.
Mais alors, est-ce que finalement la mort de ce jeune oncle dans ce roman, vous la faites apparaître un petit peu comme le mythe fondateur de votre naissance? Alors il y a quelque chose, il y a un hiatus dans le temps qui est très fort.
Sûrement, je crois que vous touchez là une vérité. Autrement dit, je ne sais pas ce que je serais ni qui je serais si cet oncle avait vécu. Je serais certainement un autre. Je serais certainement un autre parce que d'une part, bon, il aurait peut-être joué un rôle dans ma vie, dans ma formation, mais en même temps, son manque, son absence, sa disparition, la conscience de tout cela, m'a poussé à explorer ce vide, cette séparation, cette absence, et je me sens très absorbé par cette exploration, par l'exploration de ce vide. En tout cas, ça a absorbé une bonne partie de ma sensibilité, de ma façon de lire le monde, de l'analyser. Il y a toujours cette mesure-là du monde pour moi, la disparition. La disparition injuste ou inévitable. Tous les êtres disparaissent un jour, mais en tout cas, la disparition toujours cruelle est une mesure du monde pour moi. Et voilà, je n'ai vu disparaître vraiment alors autour de moi des gens que relativement tard. Je n'ai pas vu de disparition dans mon enfance. Ma grand-mère, qui était un être que j'adorais, est morte quand j'avais 23 ou 24 ans. Par contre, cet oncle, en effet, était mort bien avant, alors que je ne pouvais pas savoir qu'on mourait quand il est mort. Je ne pouvais même pas savoir que j'étais vivant. Donc, je n'avais conscience ni de la vie ni de la mort. Par contre, effectivement, ce vide que j'ai découvert sous mes pieds, en quelque sorte, est probablement, fondateur de ce que je suis. Donc, la mort de cet oncle, dans les circonstances que je décris, est ma propre naissance, en tout cas, je dirais, à la sensibilité, à l'activité littéraire, sont liées.
Votre mesure du monde, c'est aussi celle de l'histoire?
Oui, alors que je ne suis pas grand lecteur ou consommateur d'ouvrages d'histoire, je ne suis pas du tout, disons, un militant politique, par exemple. Je ne suis pas un dévoreur d'actualité, l'histoire du XXe siècle, avec son traumatisme central, me détermine dans beaucoup de choses parce que je pense qu'elle est une expérience jamais vue, jamais vécue, enfin quelque chose qui n'a probablement rien de comparable dans l'histoire, même s'il y a eu des tragédies épouvantables dans l'histoire, des massacres, des horreurs de toutes sortes, des pillages, des incendies, des violences de toute nature. Mais celle-là, je crois, est à une échelle et avec un objectif inédit, jamais vu. Et donc, je ne peux pas échapper à cette histoire-là. Et cette histoire-là, elle contamine l'histoire en général. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans l'actualité, dans l'histoire, je le mets toujours en référence à ça. Et quand, par exemple, je vois ce qu'est la situation sociale, par exemple, ou politique en Europe ou en France. J'en vois les drames, j'en vois les problèmes. Mais il y a toujours comme référence lointaine, comme origine, en quelque sorte, de tout cela, la tragédie de l'effondrement de l'Europe comme centre du monde au milieu du XXe siècle.
Et vous n'en finissez pas de refaire cette histoire de la vieille Europe?
Je n'en finis pas de la... Peut-être pas de la refaire, parce que je ne sais pas, je ne saurais pas comment, je ne saurais pas ce que ça donnerait. Si, par exemple, ce drame n'avait pas eu lieu, que serait l'Europe aujourd'hui? Je pense qu'elle serait très différente, évidemment, de ce qu'elle est aujourd'hui. Elle n'aurait peut-être pas perdu le rôle qu'elle avait jusqu'à la guerre, comme centre du monde, centre des idées, lieu de toutes les nouveautés scientifiques, intellectuelles, artistiques, littéraires et autres. Je ne sais pas ce que serait, par exemple, s'il n'y avait pas eu la guerre, l'équilibre entre l'Europe et le reste du monde, l'Europe et l'Amérique, l'Europe et l'Asie, etc. Je ne suis pas sûr de refaire l'Europe, mais je médite beaucoup sur ce qu'elle est et sur sa tentative de se configurer, qui me laisse très perplexe. Bien que ce rêve me semble un beau rêve, le rêve d'une Europe unie, une grande famille, malgré la diversité des cultures, des langues et tout ça, mais je la vois de tous côtés, toujours en train de perdre le match qu'elle joue contre elle-même, toujours menacée par les égoïsmes, les séparatismes, les petitesses. Et ça me frappe beaucoup, par exemple, que l'Europe qui se donne une monnaie unique, qui supprime ses frontières, en même temps se pulvérise avec des pays qui volent en éclats. Donc à la fois, d'un côté, un grand effort d'unification, et d'un autre côté, des pulvérisations, des morcellements, comme la Tchécoslovaquie, pays si raisonnable pourtant, qui se sépare en deux pays. L'ex-Yougoslavie, pulvérisée en je ne sais combien de nations, et c'est peut-être pas fini. Les séparatismes, en Italie, les Italiens du Nord qui méprisent ceux du Sud. En Belgique, les Wallons et les Flamands qui se disputent à n'en plus finir, et qui menacent vraiment même l'entité belge. Les Irlandais, les séparatismes de toute nature, les Basques, les Catalans, les Bretons, les Corses, etc. Tout ça me semble quand même une situation terriblement chaotique.
Alors, votre procédé d'écriture fait penser à celui utilisé par Guillaume de Machaut au XIVe siècle dans son motet « Ma fin et mon commencement ». Alors, outre l'évident symbole, est-ce que l'écriture musicale inspire votre écriture littéraire ?
Alors, je réponds oui, mais je peux peut-être préciser que j'ai appris depuis quelques années, donc j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, que je dicte mes romans, donc j'ai appris à écouter la langue, plus qu'à la regarder sous forme de signes typographiques noirs sur une feuille blanche. Donc pendant très longtemps, j'ai regardé les textes, comme on les regarde habituellement, on regarde une page qui se compose. Bon. Maintenant, bien avant de les regarder, je les écoute. Donc je les écoute en les disant, en les dictant. J'écoute donc la musique de la langue, la composition de la langue, les effets de prosodie, de répétition, d'assonance, tout ça complètement fondu avec le sens, car je n'écoute pas les aspects, je dirais, décoratifs de la langue, les sonorités, mais la fusion entre le sens et les sons de la langue, les mots de la langue, les structures de la langue, les phrases. Bon. Donc, c'est vrai que je reconnais à l'écriture une dimension orale, sonore et musicale, et que par ailleurs, ayant fait beaucoup de piano dans ma petite enfance, entre l'âge de 5 et 10 ans, ayant même failli devenir pianiste, puisque ça se passait plutôt bien, ce don ou ce goût pour la musique ont été interrompus brutalement par mon père, qui avait très peur que je devienne pianiste, et a vendu le piano quand je suis entré au lycée. Donc il y a eu un moment où j'ai été privé de musique, et où, alors je ne sais pas s'il y a une correspondance, et où j'ai commencé à écrire des poèmes, à écrire des textes, et d'ailleurs à me servir d'une machine à écrire, qui est un engin extrêmement proche d'un piano. C'est un clavier avec des touches et des petits marteaux qui vont frapper. La musique continue à être pour moi l'art insurpassable, où des génies pour moi incomparables se sont exprimés, dont je ne sais pas comment ils ont pu imaginer leurs œuvres, comment ils ont pu les concevoir, les écrire. C'est l'art qui suscite chez moi la plus grande admiration, de loin. Et peut-être qu'écrire, pour moi, c'est une façon de compenser le fait que je ne compose pas de la musique.
Vous ne composez pas de musique, mais vous écrivez quand même du contrepoint, malgré tout. Alors, dans cet ouvrage « Moi, chante d'or F », vous vous souvenez, vous imaginez ?
Eh bien, il y a vraiment un mélange des deux, puisqu'à vrai dire, pour écrire le roman, je me suis servi du peu que je savais de la vie et du destin et de la fin de cet oncle, dont je savais quelques petites choses, je savais à peu près à quoi il ressemblait, je savais à peu près quel était son caractère, ses goûts, j'avais quelques éléments de sa vie, comme le voyage avec sa sœur à Vienne pour aller voir mon père qui y était étudiant. Ça, c'est un épisode qui m'avait été raconté. Alors ça, c'est une source d'informations réelles. C'est le « je me souviens », mais un « je me souviens » de seconde main, hein, puisque c'est « je me souviens » de choses qu'on m'a racontées. À quoi s'ajoute un « je me souviens » autre, qui est lorsque je lui prête des souvenirs de ma vie à moi. Donc déjà, dans « je me souviens », il y a deux « je me souviens ». Il y a celui des histoires qu'on m'a racontées le concernant, ou du monde dans lequel il a vécu, parce que j'ai pu, avoir des informations sur ma famille, sur la maison qu'ils habitaient, sur ce que faisaient mes grands-parents. Donc tout ça est venu évidemment entourer le destin de cet oncle à partir d'informations dont je me souviens. Et puis il y a le « je me souviens » de ma propre vie et de choses de ma propre vie que je lui prête pour compléter en quelque sorte. C'est comme une fresque où il y a des manques, des parties effacées et qu'on remplit avec les éléments les plus vraisemblables. Et puis il y a évidemment carrément le « j'imagine » quand je suis obligé de lui prêter des épisodes de vie qui sont entièrement imaginés, mais à partir de ce qui aurait pu être vraisemblable et de ce qui ressemble à ce que j'aurais moi-même vécu. Donc là, c'est vraiment du « j'imagine ». Mais donc, il y a aussi le « j'imagine que je me souviens » et le « je me souviens que j'imagine ». Hein, ça joue dans tous les sens. Tout ça pour faire le portrait d'une personne dont beaucoup d'éléments me manquaient. Donc il a fallu créer cet alliage complexe entre « j'imagine », »,« je me souviens », les différents types de souvenirs et de mémoires, les différents types d'imagination, pour arriver à reconstituer à peu près ce personnage en lui apportant beaucoup de moi, fort de ce que m'a dit la seule personne à m'avoir parlé de lui, qui était ma tante, qui m'assurait que je lui ressemblais beaucoup, qu'il y avait beaucoup de points de ressemblance, de coïncidence entre nous. Donc c'est ma légitimité, c'est ce que me disait ma tante quand elle s'étonnait de à quel point je pouvais lui rappeler son frère.
Et vous allez jusqu'à imaginer, vous souvenir de sa mort ?
Oui, puisque j'en connais, je dis comment dans le livre, j'en connais les circonstances, comment elles ont été rapportées dans des circonstances extraordinaires qui sont complètement liées à l'histoire de la bague, puisque c'est la bague qu'il a donnée donc à un de ses compagnons d'infortune, lequel a survécu, qui a pu la porter, que ma tante a pu miraculeusement croiser un jour à la terrasse d'un café à Tel Aviv et s'étonner de cette bague et demander à ce monsieur. Dans des circonstances absolument improbables, cette bague est revenue à ma tante, alors qu'elle aurait pu être volée par un SS ou terminée je ne sais où, dans une fosse ou dans un four crématoire. Cette bague est revenue à ma tante et avec elle l'histoire de la fin de mon oncle. Donc j'ai quand même eu des informations relativement précises sur les circonstances exactes de sa fin, par le monsieur qui en a été le témoin, qui a été son compagnon de voyage, si je puis dire, et qui en a rapporté les circonstances embêtantes, laquelle me les a racontées. Et puis, évidemment, en complétant par tout ce que j'ai pu lire sur ces trains de déportés qui partaient de Hongrie à la fin de la guerre, alors que les Hongrois se croyaient finalement épargnés, pensant que l'Allemagne était au bord de la défaite et qu'ils allaient échapper au sort de beaucoup d'autres Juifs d'Europe. Mais pas du tout. Les Allemands se sont acharnés. Bien que se sachant probablement vaincus, ils ont voulu continuer leur sale besogne. Et donc, beaucoup de Hongrois ont péri. Donc j'ai pu évidemment ajouter aux circonstances précises de la mort de cet oncle des informations que j'avais sur ce qu'a été le destin des Juifs hongrois. Il y a même eu une exposition organisée par la ville de Paris sur les Juifs hongrois, enfin sur le destin des Juifs hongrois déportés à Auschwitz.
Alain Fleischer, merci.